Life Radio 107.7, écoutez-nous sur liferadio.ci et suivez toute notre actualité, infos, news, players et un max de tubes non-stop. Life Radio 107.7, comme tu l'entends. Life Radio. Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Parlons-en ce matin. Denis Cazian, secrétaire exécutif chargé des élus locaux, vice-président du PDC RDA, est notre invité ce matin. Bonjour Monsieur Cazian, bienvenue chez nous.
Oui, bonjour.
Nous sommes très heureux de vous recevoir.
Moi également, je suis très heureux d'être dans vos studios.
Ben voilà qui est intéressant. Tout de suite, on va attaquer, on va mettre directement le pied dans le plancher. Il y a exactement 5 jours, le PDCI RDA tenait son 7e congrès extraordinaire. Que faut-il en retenir là où nous nous parlons ce matin?
Oui, je voulais vraiment vous dire merci pour cette opportunité que vous nous donnez. Parlant d'abord du 7e congrès extraordinaire du PDCI RDA, c'est un congrès extraordinaire, c'est pas un congrès ordinaire. Il y avait juste un seul point. Un seul point, il s'agissait pour nous de régulariser une situation, les statuts donc du parti, changer juste l'article 54.
Okay.
L'article 54 qui limitait donc le nombre des membres du bureau politique à 400. Or, il y a aujourd'hui plusieurs cadres qui méritent vraiment d'être promus par le président Bédier, qui donc doivent rentrer au bureau politique. Et donc, il fallait faire cette ouverture. Donc, nous avons fait sauter le verrou des 400 membres. Et aujourd'hui, le président peut nommer 1000, 2000, 3000. Je veux dire, selon vraiment les critères donc, de choix de ces militants qui doivent vraiment rentrer dans cette instance de décision du parti. Ensuite, après donc, le changement donc, de l'article 59, il fallait aussi ratifier tous les actes qui ont été pris depuis le 12e congrès. Parce que si vous ne le faites pas, ces actes peuvent être vraiment frappés de nullité. Donc, cela aussi a été fait. Donc, nous avons modifié.
Est-ce qu'on peut brièvement les rappeler, ces actes-là?
Non. C'est toutes les décisions du bureau politique. Voilà, toutes les nominations que le président a eu à prendre, les décisions des nominations qu'il a eu à prendre. Donc, c'est tout ça qu'il fallait ratifier. En fait, il fallait donc vraiment les rendre légales, légitimes, de sorte que, bon, vraiment, personne n'ait plus quoi à dire par rapport à toutes ces décisions qu'il avait pu apprendre.
Parfait. Nous reviendrons en tout cas sur des détails du congrès plus tard dans notre entretien, mais pour l'instant, intéressons-nous à la région du Cavalier, d'où vous êtes vous-même originaire. Comment s'y portent les bases et les fondations de votre parti dans la région ?
Mais le PDC-RDA se porte bien dans le Cavalier. Nous sommes dans cette zone où vraiment nous avons connu des problèmes à un moment donné de la Côte d'Ivoire.
C'est ça.
Et les partis politiques ont eu certains partis politiques aussi en termes de difficultés, comme le nôtre. Mais aujourd'hui, depuis pratiquement une dizaine d'années, je peux dire que le PDCI est à pied donc dans le Cavalier.
Parfait.
Quand je dis à pied, nous avons un député à Taï, nous avons un député à Bleu-Léquin, nous avons la mairie de Toulé-Pleu.
C'est ça. Hein.
Je pense déjà que pour ces postes-là, c'est important. Et nous sommes aussi représentés au sein du conseil régional du Cavalier, puisque la proportionnelle a toujours voulu que même ceux qui ont été battus soient vraiment siège donc dans le conseil régional, mais dans le conseil municipal. Voilà ce que je peux vous dire. Quand j'ai dit nous avons la mairie de Toulé-Pleu, nous y sommes depuis 2013. J'ai été élu depuis.
Et quand 2013. Vous parlez de la mairie de Toulé-Pleu, c'est vous-même qui en êtes
le maire. Oui, je suis donc le maire de Toulé-Pleu depuis 2013, donc délégué PDCI, maire PDCI de Toulé-Pleu depuis 2013. En 2018, nous avons été encore candidats, nous avons battu notre adversaire et nous sommes là. Et nous sommes, je peux le dire, sans trop me taper la poitrine, dire que sur 17 communes à l'ouest de la côte, dans l'ouest montagne de la Côte d'Ivoire, il y a une seule mairie qui est à l'opposition. C'est la mairie de Toulé-Pleu. Voilà. Et nous nous défendons bien. Et nous pensons qu'avec les élections qui arrivent, nous allons donc être candidats à nos propres élections. Et nous pensons vraiment avoir encore la confiance de nos parents.
On peut l'analyser autrement également pour dire une seule mairie sur 17, c'est dire que le PDCI est en recul dans l'ouest.
Oui, ça c'est l'ouest montagneux.
L'ouest montagneux.
Tout à l'heure, vous m'avez posé la question de savoir par rapport au Cavalier.
Tout à fait.
Voilà, l'ouest montagneux. Et là, nous ne sommes pas mieux l'outil parce que vous avez l'UDPCI, vous avez le PDCI, vous avez le FPI, vous avez EDF.
Le PPACI, tous les partis en tout cas sont représentés.
Voilà, donc, nous avons un élu à Bangolo, comme vous voulez parler de tout l'ouest montagneux. Et puis bon, quand on vient donc dans le Cavalier, où nous avons vraiment quand même une bonne assise.
Voilà qui est
intéressant. Vous aviez également le conseil régional avec Dagoubet Banzio à l'époque.
Oui, oui, on a eu le conseil régional Dagoubet Banzio en 2013. J'étais son allié, son partenaire. Et nous avions gagné durant ces élections. Et puis en 2018, malheureusement, nous avions eu deux candidats PDC-RDA, un candidat officiel et un indépendant, ce qui nous a valu vraiment cette défaite que nous regrettons. Mais aujourd'hui, je dis encore que le PDCI est donc dans le cavalier et nous espérons vraiment glaner encore d'autres lauriers.
Nous allons marquer une petite pause, M. Casillon, ce matin, et nous allons continuer notre entretien, notre interview avec vous dans la seconde partie.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ? Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
Et nous en parlons justement avec notre invité ce matin, Monsieur Denis Casillon, secrétaire exécutif chargé des élus locaux, vice-président du PDC-RDA. Il est avec nous. En septembre prochain, Monsieur Casillon, ce sera les élections locales dans cette région de l'ouest du pays. Le conseil régional, donc on parle bien évidemment du Cavalier, le conseil régional, la ville de Guiglo sont détenus par le RHDP. Que comptez-vous faire pour non seulement changer la donne, mais aussi pour ratisser large ?
Mais nous organisons aller à ces élections. Le PDC a lancé donc un appel à candidature. Au niveau du conseil régional, nous aurons donc un candidat. Au niveau de la mairie de Taï, la mairie de Guiglo, la mairie de Bleu-Léquin, de Toulé-Pleu, nous aurons donc des candidats. Nous aurons des candidats partout avec des listes bien constituées. Et je peux vous dire que nous aurons donc à compétir sainement avec nos frères. PPACI, RHDP, comme vous l'avez dit, FPI. Et nous allons à cette compétition vraiment rassurés de ce que le PDCI remportera vraiment, pas tous les sièges sûrement.
C'est une coalition qui va se faire où le PDCI va tout seul affronter évidemment ces élections.
Cette question n'a pas encore été tranchée au niveau de notre parti.
Okay.
Le président du parti nous recevant à Daoukoro le 29 janvier a dit que le PDCI allait donc aller à ces élections dans une alliance. Mais une alliance qui doit arranger le parti, une alliance qui doit donc faire gagner le parti. Pour l'instant, nous n'avons pas reçu de consignes, mais nous sommes sur le terrain. Chacun occupe donc le terrain comme il peut. À l'heure donc des alliances, nous allons nous retrouver selon donc le mot d'ordre du parti, le mot d'ordre du président du parti, et nous allons discuter avec les alliés qui auront été désignés par le parti. Je dirais aussi que dans chaque zone, il y a des réalités, mais nous tenons effectivement compte aussi de ces réalités dans nos différentes localités. Parce que c'est à nous aussi de faire remonter l'information, ce qui peut arranger le parti là où nous sommes. Et je pense que c'est tout ça, le président regardera et il nous donnera donc vraiment la voie sûre.
En attendant, bien évidemment, le 13e congrès ordinaire. Armel Mehdi.
Bon, je veux dire que, à l'ouest, pour moi qui ai vécu un peu à l'ouest, le fait d'être au sein du RHDP, ça va au-delà, de la politique, ça va créer une certaine sorte de solidarité, d'union entre les frères et les sœurs. Aujourd'hui, comment se porte justement cette solidarité, cette union entre frères et cadres politiques dans l'ouest du pays?
Non, je peux vraiment vous rassurer que en termes donc de contacts, de solidarité, de fraternité, nous n'avons aucun problème. Vous verrez d'ailleurs que chaque fois qu'il y a eu une élection en Côte d'Ivoire, là où il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu de grabuge à l'ouest depuis un certain temps. Ça veut dire que nous nous respectons mutuellement, chacun a donc sa ligne politique. Mais chacun aussi a son frère ou sa sœur en face. Et là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais quand sonne donc l'heure donc de la compétition, mais chacun porte son maillot, chacun donc vend donc les mérites de son parti, chacun vend son programme, et puis bon, c'est le meilleur qui gagne. Et après ça aussi, nous fréquentons, nous sommes ensemble, nous parlons de développement ensemble. Je vous dirais par exemple que j'ai été invité, j'étais le 15 août dernier à Toulé-Pleu, à la manifestation de soutien au chef de l'État. Chef de l'État. J'y étais en tant que maire, j'y étais en tant que cadre, et puis j'ai donné ma contribution. Ma contribution, et au-delà de ma contribution, j'ai même fait une intervention que quand il s'agit du développement, nous devons nous mettre ensemble. Mais quand sonne aussi l'heure donc des campagnes, mais chacun est dans. C'est des pas qui sont partagés
tout à
politiquement.
Fait.
Voilà,
tout à
voilà
fait.
Un peu, moi, mon raisonnement.
C'est un peu un discours de leader, mais bon. Alors, M. Denis Casillon, est-ce qu'il a des ambitions dans la région du Cavalier ou de sa fonction de maire de Toulé-Pleu?
Pour l'instant, la mairie de Toulé-Pleu me suffit. Le reste, c'est Dieu qui trace.
Voilà. Mais quelle est la participation des génies de tout le plus dans cette histoire politique? Mais vous qui êtes en blanc aujourd'hui, est-ce que vous représentez les combien?
Non, je suis en blanc parce que je suis PDC. L'envers, c'est le PDC.
Et maintenant, les génies PDC, est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'ils étaient invités au congrès?
Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu les génies PDC. Et nous sommes dans la période sainte. Et je pense que.
Donc, ils ont pas invité plusieurs de la. Vous avez fait exprès pour écarter les génies en faisant le congrès dans la semaine sainte.
Non, on n'a écarté personne. Tout le monde était bienvenu. Ceux qui étaient en blanc. Vous savez, dans un parti politique, il y en a qui sont catholiques, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont combien. Mais tous ceux-là sont les bienvenus au sein du parti. Et on n'exclut personne. Mais je vais dire que.
Je n'ai plus de questions.
Allez, je pense vous avoir convaincu.
C'est ça. Oui, ça va. Il est PDC, donc il n'est pas peur.
Oui, mais il a l'œil d'un commun.
Alors, nous parlions il y a quelques secondes de vos ambitions. Monsieur Denis Casion, vous aviez dit que votre fonction de maire de tout le pleu vous suffit pour le moment largement. Maintenant, comment avez-vous accueilli la nouvelle de votre nomination par le président Bédi en tant que vice-président du PDCRD en janvier dernier?
Oui, cher frère, je voulais simplement dire que en politique, on s'attend aussi à des promotions.
Okay.
Quand vous avez travaillé, à un moment donné, vous attendez aussi des félicitations de votre patron. Ça fait pratiquement plus d'une vingtaine d'années que je suis au secrétariat général du PDCRD. J'ai été secrétaire général, j'étais membre du secrétariat général avec donc le secrétaire général Alphonse Didier Madi pendant pratiquement 10 ans.
Okay.
Après donc le 12e congrès, je ne suis pas rentré directement au secrétariat exécutif. Un an après, j'ai été appelé au secrétariat exécutif, où j'ai occupé les fonctions donc de secrétaire chargé donc du bulletin de liaison, ensuite de l'information et de l'économie numérique, et aujourd'hui secrétaire exécutif chargé des élus locaux. Je pense que j'ai fait ma preuve sur le terrain.
Vous avez gravi tous les échelons.
Oui, j'ai gravi tous les échelons. Je suis aussi délégué départemental. J'ai fait mes preuves. Mais au-delà de mes preuves en tant que militant, j'ai plus fait mes preuves de soutien au parti dans mon journal, Le Nouveau Réveil.
Tout à fait.
Que j'ai créé moi-même en 2000, après donc le coup d'État de 99, au moment où tous les barons du PDC étaient allés en exil, face donc aux jeunes gens de Gueye Robert, j'ai pris donc mon courage, j'ai créé un journal qui a fait ressusciter le PDCRDA.
Ok.
Aujourd'hui, quand vous parlez du PDCRDA le matin pour avoir donc le tempo, vous prenez d'abord le Nouveau Réveil. Depuis 24 ans, nous sommes au travail, en mission pour le PDCRDA. Tous les soirs, j'organise mon bureau politique avec mes collaborateurs au journal et nous dessinons l'actualité selon le parti, l'actualité selon la nation. Et les informations venant de ce journal ont aujourd'hui boosté le PDCI à être là où il est, tout simplement parce que nous l'avons bien vendu. À un moment donné, il faut aussi que le président se dise mon fils a fait un travail pour moi, c'est vrai, il y a mon secrétaire exécutif.
C'est une reconnaissance à laquelle vous vous attendiez.
C'est une reconnaissance, je m'y attendais puisque j'ai quand même des rapports de père et fils avec le président. Mais au-delà de ça, il y a le travail qui a été fait. Vous savez, il y a plusieurs manières de militer. On peut militer donc, en faisant donc la campagne, les slogans dans ces localités. Mais la meilleure manière aussi, c'est celle vraiment de maintenir un journal en main. Malgré les menaces, les intimidations, malgré tous les risques, vous prenez ce journal qui, depuis pratiquement 24 ans, a mené le travail donc de la libération, le travail donc qui a permis au PDC d'être résilient et de positionner le président Bédié là où il est aujourd'hui. Ça aussi, ça méritait vraiment d'être récompensé et c'est ce qui vient d'être fait. Je voulais donc adresser toute ma gratitude au président du parti, à tous ceux qui l'ont conseillé à ce que nous soyons donc à ces postes de responsabilité. Et je pense que c'est mérité et nous ferons mieux vraiment pour ne pas décevoir le président.
Parfait. Lynn Begré.
On vous sent très loyal, vous êtes resté égal à vous-même. Et en tant que secrétaire général pendant plus de 20 ans, quel est votre ressenti face au départ de vos frères vers le RHDP?
Notre président, le président Bédi l'a dit à Daoukrou, vous savez, si vous êtes ensemble et qu'à un moment donné, les gens décident de partir, vous ne pouvez pas les forcer. L'entrée dans un parti politique se fait de manière libre, de manière individuelle. À un moment donné aussi, ils peuvent décider de partir. Seulement, je dis que quand vous avez bénéficié des grâces, des avantages du parti et qu'à un moment donné, même que ce parti soit en difficulté,
vous devez faire preuve de conviction, de fidélité. Mmh. Et c'est là même que la fidélité. Moi, qui vous parle, j'ai été président du conseil d'administration de la Poste de Côte d'Ivoire pendant 8 ans. Mmh. À un moment donné, compte tenu donc de mon attachement au président Bidier, quand il y a eu donc le désemparatement PDCI, RIDP, j'ai été remercié par le chef de l'État. Et j'ai eu le contact avec le président de la République, je lui ai dit vraiment merci de m'avoir gardé pendant 8 ans, mais je préfère rester à côté de mon père, le président Henri Konan Bédié.
Où sont passés les timbres?
Les timbres sont là. J'ai pu nettoyer ces timbres pendant pratiquement 8 ans, parce que quand j'ai arrivé à la poste, c'était vraiment tout était dans la poussière. Il n'y avait pas, il n'y avait même pas de réunion du conseil d'administration, il n'y avait pas, on va dire, je veux pas, bon, j'ai un droit de réserve, j'ai vraiment nettoyé ce thème.
Non, quand on parle de thème, le moins cher, c'était combien à son temps, quand vous étiez aux affaires?
Oh, bon,
je 200, pas... 500, les thèmes, vous connaissez
la ville. Quels sont ces timbres? Vous parlez de quels timbres?
Mais vous parlez de fidélité avec Henri Konan Bédié, il faut que vous nous parliez des timbres.
Non, je parle de fidélité avec le président Henri Konan Bédié, je ne parle pas de vente de timbres. C'est vrai, quand j'étais à la poste, on vendait bien les timbres, demandais à tous ces gens qui y sont. Et aujourd'hui, ce que j'ai laissé même de mieux, même à cette poste, la banque que vous voyez, BDA, là, qui est installée
aujourd'hui, oui, banque de la poste,
là, ça porte ma signature. C'est moi qui ai été négocié sur l'instruction du président de la République à.
Allez-y.
En Espagne, et puis bon, voilà, nous sommes venus. Donc, nous avons travaillé, et vous voyez, il y a un relooking de la poste à un moment donné, nous avons fait ce que nous pouvons. Donc, je veux dire que j'ai fait 8 ans, j'ai été remercié.
Et
mais
c'est
pas
timbres.
Pour autant que moi, l'occasion, je dois donc prendre ma décision de dire que non, vraiment aujourd'hui, parce que j'ai été remercié, je pars.
Est-ce que les piliers du PDCI ne sont pas en train de vaciller quand on voit la qualité de ces personnes qui sont en train de, quitter le parti?
Non, je suis pas d'accord avec toi. Le thème est très fort.
Oui, là je suis d'accord.
Le thème est très fort. Le PDCI serait en train de vaciller si et seulement si aujourd'hui nous allons à un congrès extraordinaire où nous nous retrouvons peut-être à 100 ou à 200.
C'est ça.
Mais si vous étiez jeudi dernier à la maison du PDCRDA, vous
saurez
qu'on a beau nous arracher ces piliers dont vous parlez. Je ne sais pas si c'est des piliers solides, ces piliers qui sont partis. Ça n'a pas entamé vraiment la résistance du PDCRDA, la résilience. Tout le monde est là autour du président.
Et la route en a été témoin quand même.
Comment?
Je dis la chaussée en a été témoin. La route.
Oui. Mais là, vous avez
avec les véhicules et tout.
C'est rien. 2025, c'est le bon temps.
Pour certains, on avait 2000 personnes. Pour d'autres, on en avait 5000. En tout cas, ça
dépend. Non, c'est un congrès. Hein, c'est un congrès. C'est pas un meeting. C'est dans un meeting, on peut compter. Mais un congrès, il y a ceux qui sont autorisés à venir. Maintenant, il y a ceux qui sont invités, qui étaient dans la salle.
Tout à fait.
Et puis, il y a ceux qui sont venus parce que c'est leur parti. Ils sont venus massivement, vraiment, dire merci au président Henri Konan Bédié et prouver que leur parti existe malgré ces menaces, ces débauchages, tout et tout.
Voilà.
Et ce matin, lisez la une du Nouveau Réveil.
Justement, on va parler du Nouveau Réveil, parce que là, on va encore descendre, bien évidemment, sur le congrès, dont on va commenter quelques phrases qui ont été dites dans son discours par le président Henri Konan Bédié. Vous avez, votre journal, le Nouveau Réveil, a titré, par exemple, Bédié a tenu un discours à la fois très offensif et rassembleur.
C'est ça. C'est un discours politique.
Ok.
Et puis, celui qui a parlé, il s'appelle Henri Konan Bédié. Il ne peut pas tenir un discours où il ne parlera pas du rassemblement de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens, autour d'une même cause. C'est vraiment le développement de notre pays dans la paix, dans la tranquillité. Mais ça ne peut pas empêcher M. Henri Konan Bédié de dire aussi ses vérités par rapport donc à l'état de santé de notre pays, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Il a appelé donc une fois de plus, comme il l'a fait le 8 février dernier à Yamoussoukro, à ce que le dialogue politique reprenne. Dans ce dialogue politique, chacun pose ses problèmes et chacun veut avoir des solutions. Et je crois que le président a été un peu très mal entendu à Yamoussoukro. Il a donné un discours, on l'a interprété dans tous les sens, mais ce qu'il a dit, nous devons nous retrouver avec le chef de l'État pour parler de la vie de la nation. Je ne pense pas que cela méritait vraiment d'être pris autrement. Il faut plutôt saluer ce message. Il y a des pays aujourd'hui où les leaders politiques ne se parlent pas. Mais quand dans un pays, un leader politique, qui lui est d'ailleurs le plus âgé de tous les leaders, demande à ce qu'on renoue donc avec le dialogue politique, il faut saluer cela.
C'est
corriger
important.
Donc ce qui ne va pas.
Max, rappelons que c'est à Yamoussoukro à l'occasion de la remise du prix
Félix Houphouët-Boigny
à Angela Merkel.
Tout à fait. Puisque vous êtes là ce matin, justement, nous allons avec vous commenter ces quelques paroles, en tout cas, du discours du président Henri Konan Bédier. Déjà sur le premier point, on va parler du point de l'éducation, puisque votre journal a titré très offensif et rassembleur. Là, pour le coup, c'est vraiment très offensif. Il dit, le président Bédier, que l'école est en déliquescence. Est-ce que c'est pas un peu trop fort en même temps, où le mot dépeint, selon vous, exactement l'état de notre école ce matin?
Vous et moi, nous sommes en Côte d'Ivoire.
Tout à fait.
Vous et moi, nous vivons les réalités.
Tout à fait.
Chacun doit donc apprécier ce que le président a dit. Mm-hmm. Est-ce faux?
Ben, moi, je ne saurais y répondre. Parce que c'est votre président, justement,
non,
qui
non,
a
non,
fait...
Non, non, c'est mon président, mais c'est un leader politique, c'est un ancien chef d'État, il sait de quoi il parle. Il y a effectivement des problèmes. Vous voyez aujourd'hui le niveau de nos enfants, l'école. Ces enfants que nous avons, bon, vous avez vos enfants à la maison, vous avez des jeunes frères, vous savez à peu près comment le niveau a baissé.
Ok.
Ça, quand ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas pour qu'ensemble, nous trouvions des remèdes. Dire que ça ne va pas, ça ne veut pas forcément dire que c'est elle qui a mal fait.
Okay.
Mais c'est comment ensemble nous trouvons des solutions pour que cette école, qui est vraiment là où nos enfants apprennent la vie, là où, d'où ils doivent partir pour être aujourd'hui des cadres de demain pour diriger ce pays, mais il faut que nous sachions que ces enfants sont bien éduqués, que l'éducation, tout se passe bien. Prenez aujourd'hui les enfants, vous leur faites une dictée, mais vous comprendrez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, le président n'a rien inventé.
Okay.
Quand il parle de l'éducation, allez-y moi à l'université, discuter avec un étudiant aujourd'hui.
En master ou en master 2.
C'est... Voilà. Vraiment, c'est déplorable.
Pourquoi vous êtes en train de dire que la politique...
Nous sommes tous responsables. Hein. Il y a le ministère, il y a, je veux dire, le gouvernement.
C'est ça.
Il y a aussi les parents d'élèves que nous sommes. Chacun doit donc vraiment s'y mettre pour que vraiment la donne change.
D'accord.
Quand la donne changera, nous tous, nous serons heureux.
OK.
Voilà. Mais je dis, sous le PDCRDA, les choses allaient mieux.
Ok.
Il n'y avait pas le Garba. C'est le Garba qui cause problème.
Ah, même, oui, ceux qui m'ont
envoyé le Garba, ils vont nous faire une prochaine pause.
Vous êtes en train de dire que la politique d'excellence, donc incarnée par feu le président Félix Houphouët-Boigny, on l'a vu avec les lycées jeunes filles, on l'a vu avec également les lycées scientifiques. Vous dites, on n'est pas dans cette perpétuation de cette culture d'excellence en Côte d'Ivoire aujourd'hui?
Oui, il y a quand même un effort qui est fait par le gouvernement en place. Mais j'ai dit que...
Ils n'ont pas la langue de bois, M. Cazillon, vous dites que ça ne va pas, c'est en déliquescence, c'est vite un effort.
Non, il y a l'effort, il y a l'effort qui est fait.
Non, j'ai dit l'effort qui est fait.
Voilà.
Mais écoutez, si aujourd'hui, quand on était en 90, on n'avait pas aussi autant de populations scolaires.
C'est ça.
Voilà. Donc les besoins sont énormes. Et même avant, sous Houphouët-Boigny, même encore aujourd'hui, le ministère qui avait le plus gros budget, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et ça continue d'ailleurs. Et c'est parce que d'ailleurs, il y a cette évolution au niveau de la population scolaire qu'il faut encore multiplier les efforts. Je crois qu'on n'arrive pas à adapter cela. Et c'est ce qu'il faut faire.
Vous dénoncez ou ne proposez pas assez?
Comment?
Vous dénoncez, mais vous ne proposez pas assez.
Non. On ne dénonce pas seulement. Même quand on dit que ça ne va pas, ça veut dire aussi qu'il faut écouter. Quand le président Bédié dit il faut qu'on ait un dialogue, c'est de tout ça qu'on doit parler à tous les points. C'est pas l'éducation, c'est quoi? L'éducation de base, c'est d'abord les infrastructures. L'éducation, c'est la formation des enseignants eux-mêmes. L'éducation, c'est le matériel didactique. L'éducation, c'est un peu tout. Donc, c'est cela qui doit être revu. Là où ça ne va pas, les acteurs, ceux qui sont là, qui dirigent notre système éducatif, savent là où ça ne va pas, et c'est là qu'ils doivent porter vraiment des corrections.
Parfait.
Ça, on n'a pas besoin...
On va y revenir, M. Cazillon.
Le ministre de l'Éducation nationale doit plutôt être préoccupé par la vie des élèves, par le changement apporté pour que vraiment on avance.
On va y revenir dans la dernière partie. On va y revenir dans la dernière partie.
Les états généraux, les réglages là, on attend vraiment l'application vraiment de ces états généraux.
Monsieur Cazillon, s'il vous plaît, on a le temps encore de parler. Ne vous en faites pas. Dans la dernière partie, bien évidemment, de notre interview, nous allons aussi ouvrir les téléphones, 27 225 49 880, pour ceux, celles qui veulent échanger avec notre invité ce matin. À tout à l'heure.
Normal, pas normal. Et si on en parlait?
Toute l'actualité en continu sur Life Radio 107.7. La radio comme tu l'entends.
Come on. Life Radio.
Normal, pas normal. Et si on en parlait ?
C'est la dernière partie de notre interview avec Monsieur Denis Cazillon, qui est avec nous, avec lequel nous abordons en tout cas toutes les questions qui sont relatives au Congrès, à sa région d'origine, le Cavali, ainsi qu'à la société. Eh bien, nous parlions tantôt d'éducation. Voilà. Et là-dessus, vous nous avez répondu. Voilà. Donc, on va encore. On va étirer encore un tout petit peu avant que la très chère Lynn Beugré, évidemment, ne prenne la parole. Voici par exemple cette phrase assez forte qui a aussi été prononcée par le président Henri Colombédier. Il dit « Au moment où se tiennent nos assises, notre population souffre de pauvreté, d'une pauvreté sans précédent. » Quel est le commentaire de M. Denis Cazillon ce matin ?
Mon commentaire, il est simple, hein. Je partage entièrement ce que le président Bédier a dit.
Ok.
Et je pense aussi que le gouvernement en est conscient. Et interpellé, il doit encore multiplier d'efforts. Quand on parle de pauvreté, avant on parlait du sachet de la ménagère. Aujourd'hui, le sachet, il n'existe même plus. Demandez aux Ivoiriens là où ils sont. S'ils mangent bien et régulièrement, point de vue sanitaire, l'État prend donc des engagements à accompagner les malades. Mais aujourd'hui, combien sont-ils les Ivoiriens qui vont à l'hôpital et qui sont soignés normalement ? La pauvreté aussi, c'est ce que vous avez comme revenu. La dernière fois, nous avons tous salué la décision du chef de l'État de changer, de passer donc le SMIC.
De 60 à 75 000.
Tout le monde a applaudi.
Okay.
Mais en réalité, même quand vous augmentez et que le prix du carburant augmente et que sur le marché, on ne peut rien acheter, c'est comme si vous n'avez rien augmenté.
Mais est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau sous le soleil, Monsieur Denis Cazillon ? Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Mais en même temps, bon, on a l'impression quelque part qu'il y a une sorte de démagogie qui est un peu faite.
Entre qui et qui ?
Entre, par exemple, ce que dit le gouvernement. On a l'impression, par exemple, qu'au PDC, on est un peu plus idéaliste dans la façon d'apprécier les choses.
Non, je suis pas d'accord avec vous. Nous vivons la réalité. Okay. Savez, c'est le factuel. Hein. On n'invente rien. Voilà. Quand on dit qu'au marché, là où vous payez, là où vous passez au marché avec 2000 francs avant, une femme aujourd'hui, vous remettez l'argent 2000 francs à votre épouse, quand elle part, ben, quand elle arrive, c'est sûrement, elle est regardée autrement par son mari, même par ses enfants. Parce qu'au fond, dans la marmite, il n'y a rien. C'est ça. C'est ça. Nous sommes vraiment, on pourrait parler donc de manière terre à terre, à dire qu'aujourd'hui, l'Ivoirien n'arrive pas à manger à sa faim. Avec même ce qu'il a, ce qu'il avait avant, qui lui permettait vraiment de vivre sainement.
Okay.
Aujourd'hui, les difficultés au niveau des ménages, mais il y a surtout le problème du carburant. C'est vrai, on nous dira qu'il y a une gymnastique qui a été faite, on a réglé un certain nombre de problèmes, mais toujours est-il que cela pèse sur les Ivoiriens. Et puis.
Déjà, on est en début du mois. Le carburant n'a pas augmenté, il est resté stable déjà pour ce mois d'avril.
Oui, mais il commence à manquer d'ailleurs sur le marché.
Voilà, le gasoil est menacé aussi.
Voilà, c'est matin même pour avoir même le super CMBDV. Mais je vais même plus loin. Je parle de la Côte d'Ivoire profonde.
OK.
De nos paysans qui vendent leur café, leur cacao, leur Levea.
L'anacard.
Ils achètent, ils vendent, mais ils n'ont qu'en retour des tickets. C'est-à-dire que tu vends, peut-être même tu as vendu pour 1 million, l'acheteur te dit, prends un ticket, quand j'aurai l'argent, je vais te payer. D'ici là, lui, il fait quoi ? Il fait comment pour scolariser son enfant ? Pour manger ou même pour soigner un membre de sa famille ?
Comment ? L'argent ne circule plus ?
Mais je ne sais pas, où, parce que ceux qui s'engagent à acheter donc, les produits de nos parents, ils sont quand même... ils ont un agrément. Voilà, ils ont un agrément. Et tous ces problèmes sont posés, mais malheureusement, il n'y a pas de solution.
On va prendre un auditeur avant que n'intervienne
Lynn Beugré. Il n'y a pas de solution, il y a la chute.
Lynn Beugré, ce matin. 27-225-49-880. Monsieur, bonjour, bienvenue, ou madame d'ailleurs. Bonjour, bienvenue.
Monsieur ne peut pas rappeler ça, Monsieur Gogo ne peut pas rappeler ça.
Il savait que Monsieur Gogo allait
aller. Allez-y, Monsieur Gogo, Monsieur Denis Cazillon est là ce matin, dites-nous.
Bonsoir, Monsieur Cazillon.
Bonjour.
Oui, moi je dirais que souvent, je n'aime pas trop apprécier les hommes politiques parce que, bon, je ne les trouve pas trop honnêtes. Vous avez été très fidèle. Moi, j'ai quand même suivi le journal dont vous parlez, le Nouveau Réveil.
Merci beaucoup.
Et ça, j'allais dire merci à un chef d'État parce que, bon, on vous a remercié de d'avoir une position politique, ça c'est bon.
Ouais.
Maintenant, quand répondez-vous à ceux qui reprochent au PDCI d'être à la base de tous les maux, hier j'ai entendu nous dire ça, parce que le RDA vient du PDCI, l'UPC vient du PDCI, est-ce qu'il y a un problème de cohésion au sein du parti avec les autres qui ne sont pas vraiment de la racine PDCI, je veux
dire.
Qu'est-ce qui fait que ça a été sorti au fur et à mesure? Ça c'est la première question. La dernière question pour terminer, vos rapports dans la région avec les cadres.
Il a déjà répondu. Merci, monsieur Bobo.
Il a répondu.
Il dit que ça va. Merci, monsieur Gogo. Alors, monsieur Delicazio.
Merci bien, monsieur Gogo. Je voudrais tout le monde dire, tout à l'heure, j'ai déjà parlé des départs au PDC-RDA. Mais je voulais aussi signaler que quand il y a des départs, il y a des entrées. C'est parce que nous n'en parlons pas assez. Il y a des entrées. Et ce que le PDCI vit aujourd'hui, c'est que nous avons raté ce qu'on appelle une liquidation.
C'est-à-dire ?
En 2018, nous étions en pleine élection municipale et régionale quand nous avons été appelés à aller à un congrès extraordinaire à Daoukro parce qu'il y avait une tentative de liquidation du parti. Je ne dirai pas par qui, suivez mon regard. Nous avons donc résisté, nous avons donc permis au président Bédié d'avoir donc son fauteuil jusqu'au congrès qui vient donc de se tenir. Tout ceci pour dire que quand vous êtes un parti comme le PDC-RDA, tel que soient les racines, quand vous avez en face de vous un adversaire ou des adversaires qui peuvent passer par tous les moyens pour liquider votre parti, si vous n'êtes pas solide, vous ne pouvez pas. Si après
maintenant,
tout ceci,
pour la deuxième chose, monsieur Denis Casillon, parce qu'il a dit aussi que on vous reproche d'être à la base de tous les maux.
Je suis en train de faire un développement, vous me suivez.
Allez-y, parce que le temps aussi nous persécute un tout petit peu.
Quand vous avez donc résisté et que dans la maison, certains encore pensent qu'ils peuvent partir là où bon leur semble, là où ils peuvent avoir leur bien-être. Là où j'ai tout à l'heure, j'ai dit que l'adhésion à un parti politique est volontaire. Comme aussi. Le départ aussi est volontaire. On ne peut obliger personne à rester. Mais nous disons que si notre maison ne se portait pas bien, on n'allait pas tant convoiter ces partis, de sorte même à pouvoir donc faire donc un recrutement au sein du parti. Vous avez une équipe de football où on vient, dans le cas du mercato, on vient solliciter vos joueurs. Mais si vous n'avez pas une bonne équipe, on ne peut pas venir vers votre équipe. Mais autant même qu'on nous prend donc, on nous prend donc des militants qui partent, qui partent, on ne sait d'ailleurs pas où, parce que souvent ils font leurs déclarations, et quand ils ont fini de faire leurs déclarations, ils n'ont aucun point de chute. Ils ne sont dans aucune section.
Venons-en maintenant à la deuxième préoccupation de M. Gogo aussi. Monsieur Denis Casillon.
Une chose, c'est de dire je pars, il faut savoir où tu pars. Et quand tu arrives, est-ce que tu es utile?
Maintenant, sur les mots.
Le temps vraiment.
Sur
le
fait de tout le PDCI.
Armel Mehdi, s'il te plaît. Sur le fait que le PDCI soit à la base de tous les mots, vous répondez quoi? Avant que Lindbergh n'intervienne.
Voilà. Je voulais demander à Frère Gogo qu'est-ce qu'il appelle les mots. C'est vrai? À un moment donné, nous avons donc composé avec le RHDP, j'allais dire le RDA, nous avons entendu parler le RHDP. À un moment donné aussi, nous ne nous sommes pas entendus, nous nous sommes séparés. C'est vrai que nous sommes aussi responsables sûrement de la gestion que nous avons, la gestion commune du pays que nous avons ensemble. Aujourd'hui, on peut nous le reprocher, mais c'est parce que nous avons aussi constaté qu'il y a un certain nombre de choses qui n'allaient pas. Nous nous sommes séparés. Donc, autant d'abord qu'on nous le reproche,
peut-être
on le reprochera à tous les partis politiques.
On reproche par exemple l'Ivoirie qui est un mot qui revient très souvent.
Il y a eu des alliances et il y a eu des alliances.
C'est le petit Baptiste qui a créé tout ça.
Aujourd'hui, vous parlerez du PDCI avec le RDA. Hier aussi, vous parlez aussi du FPI avec le RDA.
D'accord.
Et ça tourne.
On ne va pas revenir à ça, c'est lointain. Lynn.
Alors, je fais un constat. Les reproches sont généraux, sont faits de façon générale, en fait. On va dire, on parle d'éducation, on a parlé également de pauvreté. Et vous, monsieur le maire, en tant que maire de la commune de Tout-le-Pleu, quelle action concrète vous avez posée pour lutter contre ces fléaux-là?
Alors, en revenant donc à ma localité, ce qui est, on va dire, la température ou même L'image qu'on a donc de la Côte d'Ivoire, ça se répercute aussi pratiquement dans nos différentes communes. Mm-hmm. Au niveau donc de nos communes, nous nous faisons l'effort aussi. Nous sommes donc, on va dire, le prolongement de l'État. Mm-hmm. Au niveau de tous les pleux, nous avons eu des projets majeurs pour les femmes. Mm-hmm. Nous avons eu des projets majeurs pour les jeunes, mm-hmm. en termes d'autonomisation. Et nous avons même anticipé sur un certain nombre de choses. Mais nous sommes encore dans une région, votre collaborateur était donc à tous les pleux, mm-hmm. c'est ce qui s'est passé. Mm-hmm. Quand nous arrivons en 2013, tout était à refaire. Ouais. La crise, tout était à refaire. Nous avons donc pu reconstituer la municipalité. Nous, avec les moyens que nous avons dit que nous pouvons compter sur le budget de la mairie de tous les pleux, nous ne pouvons rien faire. Donc, nous avons tissé un jumelage avec la mairie de Cocody.
Ok.
Ce qui nous a permis de bâtir un hôtel de ville de 105 millions, mm-hmm. équipé par la mairie du Plateau. Mais quand vous êtes bien installé, il faut encore trouver de l'argent pour vous occuper des jeunes. Mm. Donc nous avons notre budget qui est là, mais nous avons plus de partenaires qui nous aident, qui aujourd'hui font que les jeunes, je ne dirais pas qu'ils sont contents, mm-hmm. ils sont tous heureux, mais nous faisons donc le maximum pour les mettre à l'aise. C'est nous ça. Avons aussi les femmes vraiment que nous appuyons sur le terrain, mm. de sorte que ces femmes et ces jeunes ne vivent pas seulement des subsides que la mairie, le maire va leur donner, mmh. mais qu'eux-mêmes, ils aient vraiment des entreprises, qu'ils fassent vraiment ce qu'ils peuvent faire pour mmh. qu'ils soient, ils aient aussi une vie améliorée.
En matière de budget, on a entendu dire également ici, même dans ce studio, que vous étiez un peu délaissé, on va dire, par le pouvoir en place.
Non, je ne parlerai pas, je ne le dirai pas ainsi. Mmh. Je pense que toutes les mairies sont traitées.
On dit que le budget arrive parfois en retard.
Comment ?
On dit que le budget parfois arrive en retard.
Oh, bon, à ce qui me concerne, chacun a son entre-jean. Mmh. Vous savez, le budget, il est là. Mmh. Il faut bouger. Un maire, il ne reste pas chez lui pour que, bon, voilà, on signe ses papiers. Là,